Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Sonia De Villers, votre invitée, joue sa mort au théâtre et raconte sa vie dans un livre.
Et voilà le résumé qui tue. Bonjour Marie-Christine Barrault.
Bonjour Sonia.
Et soyez la bienvenue. Ce livre où vous égrenez les souvenirs sans mentir à soi-même, sans mentir aux autres, sans mentir à la vie, parce que je pense que c'est ça quand on arrive à un certain âge, il s'intitule « Si tu savais, c'est merveilleux ». Et il paraît chez Stock. Et ce qui m'a frappé, c'est ce non-dit que vous qualifiez de colonne vertébrale, ce non-dit abyssal dans lequel vous grandissez.
Curieux d'ailleurs, parce que j'étais quand même dans un environnement assez élevée, on va dire. Ma mère était pianiste, fille d'un grand peintre. J'étais enveloppée de très beaux tableaux, de très beaux meubles, de belles choses. J'avais cet oncle Jean-Louis Barrault qui était quand même une grande figure du théâtre. Et curieusement, j'étais dans un environnement assez aculturel. On parlait très peu et surtout on parlait très très peu de nos sentiments. Et on aurait pu être une famille dans laquelle il ne se passe rien. Or, il se passait quand même beaucoup de choses. Mes parents se sont séparés, mon père est tombé malade, mon père est mort, mon beau-père est mort. Enfin, c'était une sorte quand même de drame permanent.
Et pourquoi vous et votre frère grandissez seuls chez vos grands-parents, loin de votre père, loin de votre mère?
Oui, parce que ma mère a changé de vie très rapidement. Elle a changé d'homme et qu'elle savait absolument pas quoi faire de nous dans sa nouvelle vie, qui n'était pas encore vraiment installée. Elle a eu très très vite ma sœur, mes deux sœurs qui sont très proches de moi comme âge, mais pas du même père. Et du coup, ne sachant pas quoi faire, elle nous a mis chez notre grand-mère. On a été élevés par une grand-mère très aimante, par ailleurs. Et donc, on n'a pas manqué d'amour, mais on a manqué de parents. Jusqu'à l'âge de 8 ans, moi, je ne savais pas ce que c'était que de vivre ni avec mon père, ni avec ma mère.
Mais c'est ça, les années 50, c'est ça, les années 60, ces divorces où on n'explique rien, nos enfants, ces beaux-pères qui ne peuvent pas trouver leur place, si ce n'est en imposant leur autorité, ces cancers qu'on ne soigne pas encore.
Et dont on ne prononce jamais le mot même. Moi, je sais que récemment, dans une soirée pour le cancer, j'ai dit, mais moi j'ai vu mourir mon beau-père d'un cancer, on n'a jamais prononcé le mot cancer. La grande différence, c'est qu'aujourd'hui on en parle. Mais aujourd'hui on parle des choses. Je crois que les gens d'aujourd'hui ne se rendent pas compte à quel point ma génération a vécu dans une espèce de silence. Mais c'était pas de la méchanceté. Hein. Moi, quand mon père est mort, non seulement ma mère ne m'a pas prévenu qu'il mourait, et il était à Bordeaux à ce moment-là, dans un hôpital, elle est partie juste en voyage, comme si elle partait voilà pour le week-end, et elle partait accompagner mon père, qui n'était plus son mari, mais sans nous prévenir, mon frère et moi, qu'il était en train de mourir. Et quand elle est rentrée à la maison, à ce moment-là, quelqu'un nous avait dit qu'il était mort, elle ne s'est même pas assise à côté de moi pour me dire « Est-ce que tu as du chagrin? Est-ce que tu veux qu'on en parle ?» On n'en a pas. Heureusement, j'ai trouvé, moi, des palliatifs, parce que j'étais élevée dans un collège religieux, avec des religieuses extrêmement intelligentes et généreuses, et j'avais des répondants avec elles, heureusement.
La Vierge Marie a été un palliatif à cet amour maternel qui vous faisait défaut, à cette attention maternelle, à cette affection maternelle.
On me parle toujours de ma foi parce que je dis.
Vous en parlez, Marie-Christine.
Mais oui, non, mais justement, on m'en parle parce que j'en parle, mais parce que elle a été ancrée en moi dans cette période-là. C'était la seule valeur sûre autour de moi. Ça et le fait que je voulais être actrice pour être dans un métier dans lequel on exprime les choses. C'est venu de tellement loin, de tellement profond en moi. C'est pour ça que j'ai jamais douté une seconde de ma vocation, comme on dit, parce que c'était la seule réponse à ce silence.
Votre oncle, Jean-Louis Barrault, sa femme, Madeleine Renaud.
Ce métier, si tu avais à le refaire, est-ce que tu le choisirais?
Écoute, en principe, quand une jeune fille vient me demander mon avis, je la supplie de ne pas faire de théâtre. Voilà. Parce que, d'abord, je trouve que c'est un métier un peu absurde dans une profession et un art magnifique.
Oui, alors il faut la convertir en profession magnifique.
Oui, voilà. Mais à vrai dire, je lui donne ce conseil-là, mais moi, si c'était à refaire, je referais ce métier-là.
Votre beau-père.
Ça dit bien les relations que j'ai eues avec elle.
Voilà. Votre beau-père, quand vous lui exprimez le souhait de devenir actrice, vous dites, vous répondez, c'est un métier de pute.
Oui, c'est ça.
Ouais. Jean-Louis Barrault et Madeleine Le Renault sont encore plus assassins.
Elle a été terrible. Un jour, je lui ai dit, mais arrête de vouloir me dissuader, laisse-moi tenter ma chance. Toi, on t'a pas empêché. Elle m'a répondu du tac au tac. Moi, c'est pas pareil, j'avais du talent.
Votre oncle vous a dit, avec le physique que tu as, ma petite fille, tu ferais mieux. C'est elle qui dit ça? C'est elle qui dit ça, qui vous dit, tu devrais être étalagiste dans un grand magasin?
Elle voulait absolument que je sois. Elle trouvait que c'était bien. Non, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'avec, en tout cas, avec le physique que tu as, ne compte pas faire du cinéma. Là, elle s'est quand même un peu trompée.
À la mort de Jean-Louis Barrault, Marie-Christine Barrault, vous vous penchez sur sa dépouille et vous exprimez cette profonde interrogation qui vous a rongé pendant si longtemps. C'est-à-dire, pourquoi ça a été si difficile
Mais malheureusement, il ne pouvait plus me donner la réponse. Ouais. Parce que le livre, il est construit comme ça, c'est-à-dire, en fait, c'est la mort de chacun de ces personnages importants dans ma vie,
Et d'ailleurs, je note, Marie-Christine Barrault, que à la mort de chacun de ces personnages importants, vous êtes sur scène. Et ça, c'est très beau, parce que c'est le vrai livre d'une femme qui a passé sa vie sur scène. Je les ai notés. À la mort de Jean-Louis Barrault, vous jouez la Cerisaie de Tchekhov. À la mort de Vadim, vous jouez Barrage contre le Pacifique. Le jour de votre mariage avec Toscan du Plantier, vous jouez Andorra de Max Rich. Ça, c'est vraiment souvenirs d'une femme de théâtre.
Ah oui, moi, ça me semble tellement naturel, mais effectivement, vu de l'extérieur, effectivement, le théâtre est tellement lié à ma vie. Je suis tellement liée au théâtre. Et je m'en rends même plus compte. C'est ma patrie, c'est mon pays, c'est mes fibres,
Regardez, on vous écoute jouer pas du tout Tchekhov, on vous écoute jouer Claudel.
Un écri d'amour, cela devrait être aussi soudain qu'une fleur, par exemple. Un parfum si droit, si prompt, que cela vous fit sourire seulement un petit peu. Ah ! Et voilà que l'on est parti.
C'est pas une fleur que l'on respire.
L'amour? Nous parlions d'un livre. Mais l'amour même, ça, je ne sais pas ce que c'est.
Le partage du midi que Marie-Christine Barrault connaît par cœur. Claudel, voilà qui aurait dû vous réunir avec Jean-Louis Barrault. Claudel a été créé par Jean-Louis Barrault au théâtre, joué par Jean-Louis Barrault, adoré par Jean-Louis Barrault. Et pourtant, Jean-Louis Barrault n'est jamais venu vous voir jouer sur scène.
Jamais. Mais en même temps, quand je lui ai dit que j'allais jouer le partage de midi, qui était pour moi la cible absolue, c'est-à-dire que je l'avais vu jouer par lui et par Edwige Feuillère quand j'avais 17 ans, plusieurs fois, et je m'étais toujours dit que si dans ma vie d'actrice, je ne jouais pas Isée du partage de midi, j'aurais tout raté. Quand je lui ai dit « je vais jouer le partage de midi », il m'a simplement dit « ah, les Claudel vous ont donné les droits ?» Et il n'est pas venu me voir, non, jamais. Non, il n'est pas venu. Il n'est jamais venu me voir jouer. Jamais. Ils m'ont jamais parlé d'un film, ni quoi que ce soit.
Et pourtant, vous avez passé du temps avec lui. C'est-à-dire quand vous étiez jeune adolescente avec votre
frère. Bien sûr, c'était quand même, c'est ma seule famille, hein. Mais je l'aime, hein, attention. Parce que quand on m'entend parler comme ça, on pourrait se dire, elle règle des comptes. Je l'aime. C'est un amour frustré, surtout sur le plan professionnel. Mais je l'aime d'amour et de, c'était, pour moi, c'était mon héros, vraiment, Jean-Louis Barrault. Et il mérite de l'être parce que c'était un homme exceptionnel.
Et c'est pour ça que vous vouliez être son Isée, d'une certaine manière.
Oui.
Lui, il n'avait pas eu d'enfant. Il aurait pu, c'est-à-dire, vous auriez pu occuper cette place-là.
Il avait ce seul frère qui était mon père, qui a eu une vie pourrie, à la fois sentimentalement et physiquement, puisqu'il a été très très malade avant de mourir. Et en fait, c'est tout ce qui lui restait de sa vie de famille, c'était mon frère et moi. Et ben non, il n'a pas joué ce rôle de père que j'attendais. Alors évidemment, j'étais assez frustrée.
Et bien plus tard, bien après sa mort, vous comprenez, vous, adulte, et en capacité de comprendre que lui-même n'avait pas eu de père. Que lui-même avait été privé de cet amour
paternel. En fait, c'est ça qui a été génial en écrivant ce livre, c'est que j'ai fait un chemin avec chacune des personnes qui a tellement compté pour moi, et j'ai fait un chemin à partir de leur disparition pour arriver à comprendre comment je pouvais les aimer au-delà de leur disparition.
Il est 9h17, vous écoutez France Inter, c'est un bonheur d'être avec Marie-Christine Barrault ce matin. On va parler de vos amours, de vos grands amours, on va parler de Toscan du Plantier, on va parler de Vadim surtout.
c'est pour toi, mon amour, mon ami. Je ne peux vivre sans toi, mon amour, mon ami. Et je ne sais pas pourquoi. C'est pour toi, mon amour, mon ami. Je ne peux vivre sans toi, mon amour, mon ami. Et je sais très bien pourquoi. On ne sait jamais jusqu'où ira l'amour. Et moi qui croyais pouvoir t'aimer toujours. Oui, je t'ai quitté et j'ai beau résister, je chante parfois pas d'autre que toi. Toi, mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi. Mon amour, mon ami, quand je chante, c'est pour toi. Mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi. Mon amour, mon ami, et je ne sais pas pourquoi. Mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi. Mon amour, mon ami, quand je chante, c'est pour toi. Mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi. Mon amour. Je ne sais plus pourquoi.
Mon amour, mon ami, 1967, Marie-Christine Barrault et moi, on aime autant l'une que l'autre, Marie Laforêt, et on vous propose de, je sais pas moi, d'écrire massivement à Radio France, à la médiatrice par exemple, pour qu'on écoute
pour ça. Pour qu'on l'écoute plus souvent.
Tous les jours.
France Inter, le 7-9-30, l'interview de Sonia De Villers.
Moi j'ai eu la chance de ne pas devenir amer après avoir connu toutes les qualités, mais aussi les faiblesses des femmes, toute leur bonté et toute leur trahison, mais surtout d'avoir fini par le mieux, ce qui est quand même une chance dans la vie. C'est-à-dire que approchant 60 ans, j'avais 58 ans quand j'ai rencontré Marie-Christine. Quand je l'ai rencontré, j'ai rencontré l'être humain qui me correspondait parfaitement. Et je crois qu'elle a rencontré l'être humain qui lui correspondait parfaitement.
Ah, vous savez, ce qui est très très émouvant, Marie-Christine Barrault, c'est de voir votre visage illuminé de bonheur, rien qu'à entendre sa voix. Oui. Rien qu'à entendre la voix de Roger et Vadim. Ah, oui. Ah, mais ça m'émeut beaucoup, parce que c'est ça un grand amour, et j'espère qu'on aura tous la chance de vivre ça, une fois dans notre vie.
Vous savez ce que sa mère, qui est une femme extraordinaire, très féministe, elle m'a dit, après quelques mois qu'on vivait ensemble, elle m'a dit « Ma petite fille, je te remercie, tu m'as rendu mon fils ». Je crois que c'était tellement évident que lui et moi, on était tellement faits l'un pour l'autre que tout d'un coup, on a donné le meilleur de nous-mêmes. Chacun a fait grandir l'autre, a agrandi l'autre.
Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Vadim, qui passait de femme en femme depuis des années, il cherchait sa mère ?
Non, non, mais il cherchait une femme idéale pour lui, j'entends. Mmh. Parce qu'elles sont idéales à bien des points, ces femmes-là. Ah bah mais oui. C'était pas des femmes idéales pour lui.
Il y a eu Bardot, il y a eu Fonda, il y a eu Deneuve.
Quand je l'ai connue, je lui disais, mais t'étais pas fait pour ces femmes-là. En fait, il y avait erreur parce qu'il a eu tellement de succès, il était tellement beau et charismatique. Alors c'est vrai qu'il avait des femmes sublimes et c'était difficile d'y résister. Mais en fait, il n'était pas heureux. La preuve, c'est que ça se terminait plutôt mal à chaque fois. Mmh. Alors que nous, à part mourir, je vois pas ce qui aurait pu nous séparer.
Ouais, vous aviez 44 ans quand vous l'avez rencontré. Ouais,
je pensais que l'amour, c'était fini à 44 ans. À l'époque, je pensais que c'était fini.
Mais est-ce que la grande leçon, c'est pas ça ? C'est que, au fond, c'est là, c'est dans la quarantaine qu'on rencontre le grand amour, le vrai.
En tout cas, si on a la chance de le rencontrer à cet âge-là, il est beaucoup plus fort parce qu'on se connaît. On sait ce qu'il faut pas faire.
Il y a des pages sur l'amour physique qui sont très belles dans ce que vous écrivez, hein. Je vous ai invité pour, si tu savais, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. C'est les pages sur l'amour physique avec Vadim.
Ouais. Mais je me suis fait engueuler dans un journal catholique qui avait l'air de dire que comment je pouvais dire que j'avais la foi alors que j'avais une telle liberté physique, sexuelle, et que en plus je me battais, je militais pour la liberté de mourir dans la dignité, comme si c'était incompatible. Bon, ça c'est ce que j'aime pas chez
les cathos
ou n'importe quel religieux qui ne pense pas par lui-même.
Ouais. Ça va vous rappeler des souvenirs. C'est la bande-annonce d'un... C'est pas un film à succès, c'est un immense succès. Ça vous vaudra même une nomination aux Oscars pour la meilleure actrice. C'était Cousin-Cousine.
Marthe.
Fille de Bijou.
Femme de Pascal.
Maîtresse de Ludovic.
Sœur de Diane.
Mère d'Éric.
Tante d'Olivier.
Et de Sylvie.
Belle-fille de Gobert.
Belle-sœur de Sassy.
Cousine de Ludovic.
Ludovic.
Mari de Karine.
Fils de Thomas.
Père de Nelsa.
Neveu de Gobert.
Amant de Marthe.
Cousin de Marthe.
Cousin.
Cousine.
Cousin.
1975, Cousin, Cousine, c'était la bande-annonce. Mais Cousin, Cousine, c'est l'épilogue de votre grande histoire partagée avec Toscan Duplantier, Daniel Toscan Duplantier, immense producteur. Et ce que j'ignorais, c'est que vous vous connaissiez depuis l'enfance.
Oui. Ah oui, on était amis d'enfance. J'avais 11 ans et lui 14 quand on s'est connus et plus jamais quittés parce qu'il était le meilleur ami de mon frère et qu'il est devenu le cinquième enfant de ma famille qui à l'époque était reconstitué. Et donc, j'ai pas de souvenirs d'enfance et d'adolescence auxquels il soit pas relié. Donc c'est vrai que on pense toujours à un producteur et une actrice, ah ben oui, ils se sont rencontrés sur le métier, pas du tout. Et je pense qu'il est venu à ce métier.
Il a rencontré beaucoup d'actrices.
Après, oui, mais quand j'étais quand même la première.
Voilà, c'est ça.
J'étais la première pour beaucoup de choses avec
c'est
lui.
Ça. Et vous décrivez très jeune sa verve. Et son irrésistible envie de séduire en public.
Oui. Il était le contraire de Vadim. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui, en public, brillait, prenait la parole, ne laissait personne parler d'ailleurs, écrasait tout le monde. Alors que Vadim, c'était le contraire. Il écoutait beaucoup les gens. C'était sa forme de séduction, que finalement je préfère.
Ouais. Mais on sent que Vadim a guéri, chez vous, dans la femme que vous étiez. Oui. Beaucoup de choses qui avaient un peu abîmé quand même Toscan.
Ah oui, parce que la relation avec Toscan, elle était sûrement passionnante. Non, elle a surtout été passionnante entre 11 ans et 20 ans. C'est quand même ce que je raconte dans le livre.
Oui.
Entre 11 ans et 20 ans, ça, on peut pas nous l'enlever. Mais à partir du moment où on a été un couple, c'était beaucoup plus compliqué. Sauf qu'on a fait deux enfants absolument magnifiques et merveilleux. Mmh. Et je bénis le ciel aujourd'hui de ces deux enfants et des 7 petits-enfants qu'ils m'ont donnés.
C'est ça. Mais c'est quand même des souvenirs de petites humiliations en public. Parce que c'est quelqu'un qui ne résiste pas à l'envie de faire un bon mot.
Ah oui,
quitte à crucifier sa femme devant
absolument.
Les autres.
Absolument. Mais c'est pas seulement avec moi, c'était avec tout le monde. Et y compris avec d'autres femmes, je l'ai vu. Il résiste pas au plaisir de faire un bon mot, de faire rire, même si c'est aux dépens de la personne qu'il est supposé aimer.
Et il voulait, il voulait être au bras d'une star. Ça aussi, ça caractérisait votre relation.
Il a trouvé que je m'étais très très longtemps
à devenir une star,
que je ne suis d'ailleurs jamais venue, parce que je suis devenue, je ne suis pas une star, loin de là. Je suis une ouvrière du spectacle. Mais il trouvait que c'était très long. Il me disait, mais enfin, Catherine Deneuve, elle a le même âge que toi. Regarde, elle a déjà eu la couverture de match. Je pensais pas que c'était une fin en soi d'avoir la couverture de match, mais bon, j'étais très contente le jour où je l'ai eu, mais ça, c'est pas ça.
Et c'est le fait d'avoir été nommée aux Oscars qui vous donne, comment dire, la liberté de dire maintenant ça suffit, on divorce.
Le divorce était déjà bien entamé.
Bien entamé.
Mais dis-moi que surtout ça m'a donné une force, moi, une confiance en moi-même. Non pas l'Oscar lui-même, mais le fait que d'un coup une sorte de reconnaissance quand même du métier. Ça n'a pas été plus facile après qu'avant. Hein. Moi j'ai toujours, parce que je suis quand même très très exigeante. Donc j'ai pas de plan de carrière. J'ai aucun plan de carrière. Je fais ce que j'ai envie de faire. Et comme j'aime beaucoup le théâtre, pour moi le vrai métier c'est le théâtre. Le cinéma c'était la cerise sur le gâteau, comme disait ma tante. Je n'avais pas le physique pour réussir au cinéma. Donc j'avais l'impression que c'était à chaque fois, c'était à l'arraché, mais j'ai fait des beaux films dont je suis très fière. Mais enfin, mon vrai métier, c'est le théâtre.
Et quand est-ce que vous vous êtes sentie libérée de cette image de jeune fille sage, de jeune fille catholique, de jeune fille propre sur elle?
Oui, réalité. Alors en même temps, là je vois bien, mon premier film c'est Ma nuit chez Maud, hein, le film de Romère. Et là j'étais à Clermont-Ferrand là, ce week-end pour fêter les 400 ans de la naissance de Blaise Pascal à Clermont-Ferrand. Et tout tourne autour de Romère à Clermont-Ferrand. Et j'étais vraiment l'actrice de Romère, Ma nuit chez Maud et tout. Donc c'est quelque chose, c'est pas mal de commencer au cinéma, oui, avec Manu Chémaud. C'est pas mal. Hein. Mais après, c'est vrai que j'étais cataloguée comme jeune fille catholique, qu'on voyait à la messe. C'est pour ça qu'il m'avait choisi quand même, Romère. Et après, c'est quand même Cousin-Cousine. C'est le film, même si c'est pas le plus grand film pour moi, et le plus grand rôle, mais c'est un film où une femme prend sa liberté. Mais en plus, sans aucun sentiment de culpabilité. C'est ça, c'est ce qui me caractérise.
Bah, c'est le tournant des années 70, en
pas
réalité,
de culpabilité.
Pour votre génération.
Voilà.
C'est le tournant des années 70.
Et je crois que c'est à partir de là que, enfin, de toute façon, moi, c'est petit pas à petit pas, mon avancée dans le métier, comme la vie. Mmh. Pas plus, pas moins. C'est parallèle. De toute façon, il était très important pour moi que de faire avancer ensemble la femme, la mère, l'actrice, et qu'il n'y ait jamais une qui prend le pas sur l'autre et qui écrase l'autre.
Et ce qui est très joli dans ce petit livre que vous publiez chez Stock, c'est que quand je dis il y a mes amours, mes emmerdes, il y a beaucoup d'emmerdes et il y a beaucoup de douleurs aussi dans ce livre. Et on sent que vous avez fait votre miel des amours et des emmerdes, et qu'à la fin ça constitue la femme que vous êtes et que vous assumez complètement.
Je suis quelqu'un qui a cherché et qui a trouvé la joie. La vraie joie, la joie vraiment qu'on peut pas nous enlever, même avec les emmerdes, comme vous dites, et même avec les choses graves et douloureuses qu'on peut vivre dans la vie, ça n'empêche pas la joie. Et je crois que si le livre dit quelque chose, il dit ça. Comment trouver la joie au-delà même des difficultés, des obstacles de la vie.
Si tu savais, c'est merveilleux. Et c'est Marie-Christine Barrault qui partage la joie ce matin avec nous.
Je prends. Merci Sonia de Villers.